Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray, le génie de l'hédonisme, 8e année, la fabulation freudienne, Sigmund Freud. Aujourd'hui, un mythe scientifique.
Bonsoir, merci d'être là. Pour cette séance, on termine les relations entre Freud et les concepts, la pensée, la philosophie et la production du système. Donc vous avez vu qu'il entretient un rapport tout à fait particulier à Oedipe, et je souhaiterais ce soir vous faire voir comment, sur un certain nombre de questions, il continue à effectuer des variations sur ce thème oedipien. Il est dans une logique de ce que Sartre appellerait un projet originaire. Dans L'être et le néant, il y a un chapitre qui est consacré à la psychanalyse existentielle, et Sartre a développé pratiquement des psychanalyses existentielles avec Baudelaire, avec Genet, Saint-Genet comédien martyr, ou avec L'idiot de la famille, un monumental ouvrage inachevé consacré à Flaubert. Et Sartre nous dit, il y a toujours un projet originaire. Vous avez, toutes et tous, ce soir dans cette salle, un projet originaire. Vous avez eu un projet originaire. C'est ce à partir de quoi vous allez construire votre existence. Et le projet originaire de Freud semble être de donner raison à sa mère et d'être dans cette inscription d'un trajet oedipien, comme s'il allait lire la pièce de Sophocle, Œdipe roi, et faire de telle sorte qu'il puisse trouver là une espèce de programme existentiel, un programme pour développer son existence. Je vais démarrer avec la question des prénoms de ses enfants. On sait que Freud nous le fait savoir dans la psychopathologie des vies quotidiennes, mais les psychologues de l'époque et les psys au sens large du terme le faisaient savoir également. Il n'y a rien de neutre, il n'y a rien d'innocent, et on ne choisit pas par hasard d'appeler ses enfants Jennifer ou je ne sais quoi. Donc on va examiner rapidement l'origine des prénoms des enfants, et vous verrez que se trame toujours dans cette aventure l'ombre d'Oedipe. Un père de substitution, un désir de père, l'idée qu'il nous faudrait rendre hommage, ou qu'il lui faudrait, mais rendre hommage à des pères, qui sont autant d'occasions de faire savoir que le père qu'on a est un père qui ne nous convient pas, puisqu'on veut s'en créer un. Souvenez-vous de cette phrase de Nietzsche qui nous dit « quand on n'a pas un bon père, s'en créer un ». Et de fait, on a l'impression que Freud a toujours cherché, d'une part, à tuer son propre père, et d'autre part, à se créer des pères de substitution. Il en va de même pour les jeunes filles, ou les petites filles, qui, elles aussi, obéissent à ce même tropisme. Et par exemple, quand Mathilde voit le jour en 1887, le 16 octobre, elle a le prénom de Joseph Breuer. Joseph Breuer est quelqu'un d'extrêmement important, puisqu'il est, au dire même de Freud, du moins dans un petit texte qui s'appelle « Sur la psychanalyse », un texte de 1909, il est l'inventeur de la psychanalyse. Il fait, Freud, une conférence pour l'obtention de son diplôme de docteur honoris causa à Worcester, et il explique que la psychanalyse est une invention de Joseph Breuer. Et puis, le temps passant, mais rapidement, en 1914, dans un autre ouvrage, « Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique », qui est un ouvrage qui, avec l'autoprésentation, est vraiment l'occasion pour lui de créer la légende, de structurer son histoire comme une légende, de créer une espèce de statue, de sculpter une statue légendaire. Freud considère que la psychanalyse, c'est son affaire, à lui tout seul, c'est son aventure. Et cette fois-ci, Breuer n'est plus l'inventeur de la psychanalyse. Breuer l'aurait été avec un petit texte qu'ils avaient, enfin un texte, pas, c'est pas un petit texte, un texte qui s'appelle Les Essais sur l'hystérie, et qu'ils avaient co-signé. Et il y a, dans ce cas, et on va en reparler un petit peu tout à l'heure, une figure qui s'appelle Anna O, Bertha Pappenheim en l'occurrence, qui est le cas prototypique, semble-t-il, de la naissance de la psychanalyse. C'est du moins ce que dit Freud avec Bertha Pappenheim, c'est-à-dire avec le cas Anna O. La méthode se trouve posée et la psychanalyse est née. Donc, Freud fait donc savoir que Breuer a inventé, puis ensuite qu'il n'a pas inventé, et que de toute façon, la différence elle est fondamentale. Breuer n'a pas osé franchir le pas de l'étiologie sexuelle des névroses. Freud considère que toutes les étiologies, toutes les origines, toutes les généalogies des névroses, elles sont sexuelles, et souvent un traumatisme. Freud fait savoir que quand il y a névrose, quand il y a hystérie, il y a eu abus sexuel en amont et essentiellement abus sexuel. Breuer ne pense pas que tout se résume ou tout puisse se résumer à des abus sexuels. Il a une conception beaucoup plus large du trauma. Il s'agit donc de donner un prénom qui fasse sens à Mathilde. Et Mathilde, c'est le prénom de la femme de Joseph Breuer. Breuer a été vraiment un père pour Freud, qui n'en avait pas réellement, qui en avait un physiquement bien sûr, mais qui en même temps n'était pas à la hauteur de la tâche de père, qui n'était pas la loi, qui n'était pas susceptible d'être admiré, qui ne pouvait pas fournir un idéal du moi. Donc Freud a considéré qu'il fallait transformer cet homme en père. Évidemment, Freud se fâchera avec lui. Je dis évidemment parce que c'est aussi un tropisme chez Freud, qui se fâche beaucoup, et après avoir beaucoup utilisé. Et quand il a beaucoup aimé, il déteste beaucoup, il se met après à gonir les individus. Il aura l'occasion de croiser Breuer dans sa rue et il évitera même de le saluer. Lui prétend que Breuer aurait été jaloux du succès de Freud, comme ça évidemment c'est facile. La réalité est que Breuer a donné beaucoup d'argent à Freud pour le soutenir, simplement, comme une espèce de père de substitution. Et le jour où Freud a commencé à gagner de l'argent, il a proposé à Breuer de le rembourser. Et Breuer a eu le geste élégant de refuser le remboursement. Donc c'était une déclaration de guerre, parce que ou il acceptait et Freud n'acceptait pas, ou il n'acceptait pas et Freud n'acceptait pas non plus. C'était une espèce de piège que de proposer le remboursement de sommes qui auraient été versées sous le signe de l'amitié. Ce prénom, d'une certaine manière, il est sous le signe de la généalogie de la psychanalyse, de l'invention de la psychanalyse. Jean Martin est le fils qui suit et qui naît, lui, le 7 décembre 1889. Jean Martin, c'est le prénom de Charcot. Et dans une lettre à Martha, datée du 24 novembre 1885, c'est sa fiancée, il écrit « Freud, aucun autre homme n'a jamais eu autant d'influence sur moi ». C'est un personnage qui joue un rôle majeur dans l'économie de la pensée de Freud, bien sûr. Il a obtenu une bourse par Ernst Brücke, on va le voir réapparaître un petit peu tout à l'heure, mais qui lui permet d'aller à la Salpêtrière. Et la Salpêtrière, c'est un grand moment mondain. Freud fait d'abord de l'anatomie de cerveau d'enfant, il fait de l'histologie, il travaille sur les cellules, et puis il assiste aux fameuses leçons de Charcot, qui sont vraiment des leçons mondaines, une espèce de théâtralisation. Il faudrait expliquer comment la naissance de la photographie, on n'est pas encore à la télévision, mais comment la naissance de la photographie a pu générer cette espèce d'hystérisation d'un certain nombre de patientes aussi. Enfin, ça, c'est une hypothèse que j'ai. Je n'ai pas le temps de la développer ce soir, mais l'idée qu'on n'est pas le même quand il y a un appareil photo, encore moins quand il y a une caméra, et qu'effectivement, il y a une hystérisation des rapports. Il y a eu une hystérisation des rapports avec les patientes de Charcot à cette époque-là, et c'était un grand événement mondain. André Bouillet a d'ailleurs peint quelque chose qui s'appelle la leçon clinique du docteur Charcot, que vous avez vu et revu. C'est une peinture qu'on voit un petit peu partout. Et Freud a acheté, quelques temps plus tard, une gravure de cette peinture, et il l'avait accrochée dans son cabinet, juste au-dessus de son divan. Il a souhaité entrer dans l'intimité de Charcot et, pour ce faire, lui a proposé de traduire le volume 3 de ses leçons sur les maladies du système nerveux, ce qu'il fera. Et il prendra l'initiative de quelques notes en bas de page. Et d'ailleurs, Charcot fera savoir que c'était très bien d'avoir pris ces initiatives. Il est invité chez Charcot, Freud, à cette époque-là. C'est un jeune garçon, c'est un jeune homme. Il consomme de la cocaïne déjà, beaucoup. Il fait savoir qu'il en a eu besoin pour aller à ses soirées mondaines, et j'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'il avait fait savoir à sa fiancée par courrier, alors qu'il lui demandait de ne même pas regarder les garçons, que finalement il aurait peut-être pu séduire une des filles de Charcot, ce qui aurait accéléré évidemment son trajet. Le signe associé à ce prénom, eh bien, c'est le moment du renoncement à l'anatomie chez Freud et le passage à la question de la maladie mentale, pour le dire entre guillemets, ou de l'hystérie, ou de la névrose. C'est-à-dire que Freud laisse de côté la question du laboratoire et de la recherche, et ce qui l'intéresse désormais, c'est la question du traitement des pathologies mentales. Et on croit à l'époque, Forel, Charcot, Bernheim et tant d'autres, et l'école d'hypnose à Nancy, qu'on peut mettre les gens sous état d'hypnose et leur demander d'aller chercher dans leur inconscient un traumatisme qui sera susceptible de les guérir parce qu'ils auront conscientisé ce traumatisme. Et les leçons d'hypnose, qui sont des leçons publiques, font voir des femmes en catalepsie ou des femmes qui rentrent dans des transes et dont on dit qu'elles étaient aveugles, elles ont retrouvé l'usage de la vue parce que, par exemple, c'était une cécité hystérique et que l'hypnose est susceptible de soigner et de guérir. Olivier, troisième enfant, né, lui, le 19 février 1891. On aura l'occasion de revenir sur cette question-là, parce que je consacrerai un long développement, une séance entière à la question, au moins, à la question de la politique chez Freud. La carte postale consiste à dire que Freud est un juif libéral et qu'en gros, il est sur des positions de centre-gauche. Il voterait Strauss-Kahn aujourd'hui, si vous voulez, quelque chose dans ce goût-là. Ce n'est pas du tout le cas. On verra que c'est très loin de tout ça et qu'il aurait même, si on veut être dans une logique de provocation, des sympathies pour un Jean-Marie Le Pen, sympathie pour Mussolini, sympathie pour Dollfuss, sympathie pour... etc. Enfin, je rentrerai dans le détail de ces choses-là, mais d'un seul coup, on découvre que Olivier se prénomme ainsi parce que c'est le prénom de Cromwell. Ce qui n'est pas rien, ce n'est pas une mince affaire de prénommer son fils Olivier en faisant référence à Olivier Cromwell, qui est ce puritain calviniste qui massacrait les catholiques et qui a confisqué leurs biens et qui, en même temps, en 1649, c'est intéressant dans la logique édipienne, a été régicide. C'est intéressant de couper la tête du roi, c'est-à-dire le représentant de Dieu sur terre, c'est-à-dire le représentant du Père sur terre aussi. Je passe rapidement. J'ai retrouvé dans l'interprétation du rêve une citation de Freud où il parle justement de cette question du prénom de ses enfants, de l'art de prénommer ses enfants. Il écrit « Il est facile de remarquer comment la mégalomanie réprimée du père se transfère dans ses pensées sur ses enfants. » Donc il le dit clairement, il parle de sa propre mégalomanie, mais souvenez-vous, on aura l'occasion d'en reparler, prénommer Olivier, l'un de ses fils, sous prétexte qu'il s'agit de rendre hommage à un personnage qui a été tyran, sanguinaire, dictateur et en même temps régicide, ça ne peut pas ne pas faire sens. Le signe associé à ce prénom, c'est le personnage, bien sûr, qui s'impose dans l'histoire par la violence. Naissance d'Ernst, le 6 avril 1892, Rücke, qui a été son maître en physiologie entre 1876 et 1882, lui, c'est un mandarin viennois qui lui a présenté le Joseph Breuer du départ, dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est aussi le personnage qui lui a obtenu les bourses lui permettant de se déplacer de Vienne à Paris pour assister aux séances de la Salpêtrière. Il fut, dit-il, c'est une citation extraite de l'Analyse profane, « la plus grande autorité qui ait jamais agi sur moi ». On est toujours dans la fascination du père, de la figure paternelle, de la figure du père de substitution, et on est dans la même logique. Il parle, Freud, d'un rêve qu'il a fait et qui mettait en scène Ernst Brücke. Il explique qu'il arrivait régulièrement en retard à son laboratoire et qu'un jour, les yeux bleus magnifiques de cet homme l'ont pétrifié, l'ont sidéré, il l'attendait. Freud était en retard, comme d'habitude, et il lui a simplement lancé un regard dont Freud dit qu'il se souviendra toute sa vie, toute son existence. Et dans le rêve, il se voit apparaître, lui, Freud, comme obéissant à une préparation de laboratoire qu'Ernst Brücke lui aurait demandé, et il serait dissocié de lui-même, c'est-à-dire il y aurait une partie de lui qui verrait une autre partie de lui, et cette partie qu'il voit est une partie éviscérée, sans sexe donc. Donc on imagine qu'on est là tout à fait dans la logique du rêve de castration. Ça paraît évident de considérer que le personnage qui vous fusille du regard, eh bien, il est dans une logique de castration. Vous vous mettez en scène en sa présence, coupé en deux, sans viscère, sans sexe, et vous regardez toutes ces choses-là, et vous concluez à quoi ? À l'auto-analyse. Freud nous dit « c'est un rêve d'auto-analyse ». Souvenez-vous de la théorie du souvenir écran, eh bien, on a ici l'équivalent d'un souvenir écran, c'est-à-dire pour ne pas voir qu'il est dans une logique de rêve de castration, il pense qu'il est dans une logique de rêve d'auto-analyse. Sophie voit le jour, elle, le 12 avril 1893. Alors on pourrait se dire, Sophia, la sagesse, hein, et le philosophia, celui qui aime la sagesse, mais vous savez maintenant que Freud n'aimait ni la philosophie ni les philosophes, et on ne peut pas imaginer qu'il ait voulu ainsi rendre hommage à une discipline qu'il a fustigée et détestée toute son existence, ou alors ce serait un retour du refoulé considérable. C'est, nous dit-on, le prénom de la fille du professeur qui s'appelle Samuel Hammerschlag, qui a été son professeur d'hébreu au lycée. À l'évidence, il s'agit avec ce prénom d'incarner la psyché juive de Freud, qui est incontestable. Il le dit dans la préface à la traduction en hébreu de Totem et Tabou, où il fait savoir qu'il a un fond juif, et que l'essentiel de son fond est juif. Il n'arrive pas à nous dire pourquoi, il dit « je ne sais pas, un jour peut-être, on aura l'occasion de savoir, mais il y a au bout du bout, chez moi, une judéité qui est manifeste, qui est foncière ». Alors il nous dit, je ne suis pas dans des logiques de croyance en Dieu, dans des logiques d'obéissance au rituel, puisque dans la famille, il avait même interdit tout le rituel ou tout signe précis d'obéissance à cette religion. À Noël, il y avait un sapin de Noël, à Pâques, il y avait des œufs. Enfin, c'était quelqu'un qui était tout à fait dans la logique de la festivité païenne des catholiques ou des chrétiens. Mais il y aurait beaucoup à dire sur la question du déchiffrage, du Talmud, du codage, sur la question d'une religion sans Dieu, d'une espèce de religion de théologie négative. L'inconscient serait une espèce de Dieu de la théologie négative. Vous verrez, on aura l'occasion d'en parler. Dès que vous l'approchez, il recule. Dès que vous essayez de le saisir, il n'est plus là. Dès que vous le dites, il disparaît. Donc la théologie négative dit de Dieu, on ne peut rien dire. Même pas qu'on ne peut rien en dire. Donc on pourrait imaginer, c'est mon hypothèse, mais je n'ai pas le temps de la développer ici ce soir, je veux dire, on pourrait imaginer que le freudisme pourrait se présenter comme une espèce de judaïsme postmoderne, judaïsme sans Dieu, qui proposerait une lecture du monde comme il y aurait des lectures talmudiques. Toujours est-il que ces relations à la judéité sont complexes. On apprend avec ce professeur Hammerschlag qu'il a eu des leçons d'hébreu. Donc ça, c'est la question de la psyché juive de Freud, et il me semble que Sophie est là, d'une certaine manière, pour l'incarner. Anna, qui est la fille majeure, c'est la fille cardinale, puisque c'est à partir d'elle que la psychanalyse durera. Elle naît, elle, le 3 décembre 1895, d'un accident conjugal, on le sait. Et elle le sait, Anna, qu'elle n'était pas prévue, qu'elle n'était pas désirée. Elle aurait dû porter le prénom de Fliss, nous dit-il, puisque dans un courrier qu'il envoie à son ami, il nous dit, si c'est un petit garçon, il s'appellera Willem. Il y a, à l'évidence, quelque chose comme une relation homosexuelle sublimée dans la relation Freud et Fliss. Freud le dit lui-même, puisqu'il se fâchera aussi avec Fliss, parce que Fliss aura développé une théorie de la bisexualité, et qu'il l'aura faite sienne, Freud, et puis un jour, il considère que c'est lui l'inventeur de la théorie de la bisexualité, et Fliss n'est pas très content qu'il ait fait usage sans le mentionner de son travail. Il y aura donc une rupture. Et donc, ils se sépareront, mais c'est à l'initiative de Fliss que cette rupture aura lieu. Breuer avait suggéré dans une lettre à l'épouse de Fliss que pour leur propre couple, c'est-à-dire le couple que Fliss formait avec sa femme, il valait mieux que Freud soit à Vienne et son mari à Berlin. C'est l'information que je vous donne. 7 août 1901, information en passant. On peut imaginer aussi que Anna, ça renvoie très précisément à la petite sœur de Freud, dont on a eu l'occasion de parler, qui, elle, était dans le ventre de sa mère le jour où elle assiste à l'enterrement de son fils Julius. Et Freud, qui a 2 ans et demi, assiste à cette scène. L'association, la mort, la tombe, le cimetière, l'enfant, mère enceinte, etc. On a eu l'occasion, la dernière fois, de parler de ce que pouvait signifier le coffret, être coffret, c'est-à-dire être dans un coffre, donc être dans un ventre. Et on peut imaginer que ce prénom-là, le prénom de cette petite sœur qui va lui faire de l'ombre, eh bien effectivement, c'est un prénom qu'il faudrait prendre en considération, du moins pour essayer de comprendre pourquoi la fille de Freud s'appelle Anna. Il y a aussi une autre hypothèse, qui est l'hypothèse d'Anna O. Anna O, j'ai eu l'occasion de vous en parler tout à l'heure, en vous disant que dans les études sur l'hystérie que Freud co-signe avec Joseph Breuer, il y a ce cas de Bertha Pappenheim. Et Bertha Pappenheim, elle est nommée Anna O, O avec un point, parce qu'il s'agissait, théoriquement, de dissimuler l'identité de Bertha Pappenheim. Il est question d'une guérison, la chose est très précisément dite, une guérison. Freud et Breuer, parce que c'est un livre co-signé, hein, du fait merveilleux qui a constitué cette guérison. En fait, elle ne l'a jamais été. Elle n'a jamais été guérie. Il y a des travaux d'historiens de la psychanalyse qui ont eu lieu et qui en font clairement la démonstration, des gens qui sont allés faire un vrai travail de détective et qui ont retrouvé la trace de Bertha Pappenheim et qui ont vu qu'après qu'elle eût été théoriquement soignée, elle a continué d'être malade et qu'elle a continué à être malade et qu'on l'a même plusieurs fois hospitalisée. Théoriquement, donc officiellement, elle est guérie en juin 1882. En fait, elle sera régulièrement réhospitalisé jusqu'en 1887. Freud dit donc qu'il a guéri, que Breuer et lui, avec la méthode de psychanalyse, ils ont guéri Bertha Pappenheim, Anna O. En fait, dans une lettre à Martha, d'où l'intérêt de lire évidemment les correspondances, vous en doutez bien, une lettre datée du 5 août 1883, Freud écrit qu'elle a été hospitalisée une fois de plus. Dans cette lettre-là, il ajoute même que, citation, c'est lui qui parle, « Breuer souhaiterait qu'elle soit morte afin que la pauvre femme soit délivrée de ses souffrances. Il dit qu'elle ne se remettra jamais, qu'elle est complètement détruite. » Donc on le sait, il n'y a même pas besoin d'aller faire une enquête sur ces choses-là, il suffit de lire l'œuvre complète, de lire les correspondances, de voir que dans les études sur l'hystérie, Anna O est présentée comme guérie, de voir que dans une correspondance datée du 5 août 1883, elle n'est pas guérie et que Freud le sait. Eh bien pourtant, et comme j'ai lu l'œuvre complète, je peux vous en donner les références, en 1915-1917, dans les leçons d'introduction à la psychanalyse, volume 14, 265, pour ceux qui douteraient, en 1925, dans l'autoprésentation, volume 17, page 68, en 1926, dans psychanalyse, volume 17, page 289, en 1932, dans un texte qui s'appelle « Ma rencontre avec Joseph Popper Linkeus », volume 19, 280, Freud fait savoir qu'Anna O a été guérie et qu'elle l'est définitivement. Freud nous fait savoir que c'est la généalogie de la psychanalyse, c'est la preuve que la psychanalyse est une discipline qui soigne et qui guérit, et quand on a la preuve que cette femme n'a jamais été guérie, qu'elle a bien été soignée mais qu'elle n'a pas été guérie, à l'évidence, on est obligé de reprendre en considération la totalité de l'œuvre, notamment les cinq psychanalyses, les cinq grands cas, Dora, le petit Hans, le président Schreiber, etc. On développera tout ça, on viendra là-dessus le temps voulu, le moment voulu. On verra qu'effectivement, ceux-là non plus n'ont pas été guéris. Et puis, on a une autre hypothèse sur ce prénom, un obscur instituteur de campagne dont on ne sait rien du tout. Freud fait savoir qu'effectivement, il aurait eu un instituteur qui aurait été père de famille et qui aurait eu une petite fille qui se serait appelée Anna. Mais on n'en sait rien du tout. Ce qui veut dire, si on synthétise la totalité de mes propositions sur l'origine de ce prénom ou sur les raisons de son prénom, qu'il pourrait signifier, ce prénom, le retour du refoulé de la petite sœur, qui, elle, a fait de l'ombre à Freud, qui considère qu'effectivement, il ne disposera pas de la totalité de l'affection de sa mère, qu'il devra compter avec une petite sœur. Ça peut être également, ce prénom, l'occasion d'inscrire sa fille sous le signe de l'hystérie. À son corps défendant peut-être, mais l'idée que Anna puisse s'appeler Anna et que le premier cas qui est censé être le cas fondateur de la psychanalyse soit le cas Anna O permet qu'on puisse émettre cette hypothèse. C'est l'occasion aussi de ce que d'aucuns, Michael Bort-Jacobsen par exemple, qui est un historien que j'ai beaucoup lu et que j'ai beaucoup utilisé, considère lui comme le premier mensonge freudien. C'est l'expression de Bort-Jacobsen, il nous dit Anna O c'est le premier mensonge freudien. Ou alors, sous le signe de l'anonymat d'un obscur instituteur qui dirait donc l'accident conjugal qu'aurait été Anna. Voilà rapidement comment, dans la famille Freud, les enfants ont des prénoms qui renvoient à des questions de père de substitution, de père idéalisé, de figure paternelle, de figure d'idéal du moi, pour rendre possible quelqu'un qui ne serait pas le père réel, à savoir Jacob, mais un autre père, un meilleur. Le fameux roman familial de Freud qui nous permet de conclure que, sur le principe de Nietzsche, quand on n'a pas un bon père, s'en faire un. Et Freud aura eu l'occasion, quand il aura baptisé ses enfants, ce qu'il interdisait à sa femme, il fait savoir que baptiser un enfant, c'était son problème à lui et pas le problème de sa femme, il n'avait rien à dire sur ce terrain-là. À chaque fois qu'il aura donné un prénom, il aura fait savoir quelque chose qui entretient toujours une relation avec Édipe. Autre moment dans la biographie de Freud qui nous permet de voir que sa vie est inscrite sous le signe d'Édipe, la question des souhaits incestueux avec ses enfants. Il existe un rêve dans lequel il parle de sentiments exagérément tendres, c'est l'expression « sentiments exagérément tendres », d'une lettre à Fliss, le 31 mai 1897, avec sa fille Mathilde. On n'a pas de détails, mais on peut imaginer que quand c'est tendre, c'est tendre. Quand c'est exagérément tendre, on est dans une logique incestueuse. Je cite toujours Freud. Il nous dit « Le rêve montre bien sûr mon souhait accompli, celui de prendre sur le fait un pater, toujours du latin, en tant qu'il est le générateur de la névrose, et il met fin au doute très vif que je continue d'avoir. » C'est-à-dire qu'il fait un rêve dans lequel probablement il entretient une relation sexuelle avec sa propre fille, et que voit-il dans ce rêve? Eh bien, la preuve qu'il y a quelque chose qui s'appellera un jour la théorie de la séduction, c'est-à-dire que tous les pères couchent avec leur fille, et s'ils ne couchent pas avec leur fille, ils en ont le désir, Et s'ils n'en ont pas le désir, du moins un autre qu'eux en aura eu le désir dans un temps extrêmement ancien, et que tout ça, via la phylogénèse, c'est-à-dire la transmission au travers des générations, se retrouve obscurément, mystérieusement, mais véritablement, dans votre inconscient. Autre petit signe intéressant, puisque je vous disais qu'on examinait les rapports entre biographie et œuvre, il concerne cette fois-ci Sophie, son autre fille. Il y a une petite carte postale écrite par Freud, qui est avec Mina, la fameuse tante Mina, à Rome. Et il écrit à sa fille qui vient de se marier, avec Max Halberstadt, il signe « Souvenir d'un père totalement orphelin ». Ce qui est quand même assez singulier, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'étymologie et considérer effectivement qu'un orphelin, c'est un enfant qui n'a plus de parents. Il n'y a théoriquement pas de mot pour dire l'inverse, mais on sait très bien ce que ça peut bien signifier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Freud a perdu sa fille. Or, vous avez vu, il n'a pas que cette fille-là. C'est-à-dire qu'en gros, on lui a volé, Max Halberstadt lui a volé quelque chose qui lui appartenait. Et à quoi accède-t-on quand on épouse une femme ? Eh bien, à son intimité sexuelle ou à l'usage exclusif de sa sexualité, pour le dire comme Kant, qui définissait le mariage de cette manière-là dans la doctrine du droit. Et puis, il y a toujours ces rêves où il est dans des logiques amoureuses avec une fille, ces espèces de lapsus ou de petits mots qui montrent un attachement immodéré et déraisonnable. Il y a un rêve singulier à l'endroit de Martin. Alors Jean Martin, puis quand il mettra un petit peu Charcot à distance, ça deviendra Martin tout court. Il nous parle d'un rêve prophétique, c'est l'expression utilisée, hein, qui a eu lieu dans la nuit du 8 au 9 juillet 1915. Prophétique, c'est clair, prenez littré, c'est qui annonce ce qui va avoir lieu. Dans une lettre à Otto Rank, qui est un autre psychanalyste dont on aura l'occasion de parler, du 4 août 1922, il parle de ce rêve et il dit qu'il est question de, citation, « la mort de mes fils, la mort de mes fils, Martin en particulier ». Et il redonne des détails sur ce rêve dans un texte qui n'est pas innocent, puisqu'il s'agit d'un texte qui s'appelle « Rêve et télépathie ». Que dit-il dans ce livre ? Rêve et télépathie. Citation. « J'ai par exemple rêvé une fois, pendant la guerre, qu'un de mes fils qui se trouvait au front y était tombé. Le rêve disait cela de façon non directe, mais pourtant non méconnaissable. Il l'exprimait avec les moyens de la symbolique de la mort bien connue. » Il détaille ce rêve-là et il dit « Mon fils, quant à lui, que le rêve disait mort, est revenu sain et sauf des dangers de la guerre. » Preuve, nous dit Freud, qu'il n'existe pas de rêve prémonitoire. Certes, il nous dit qu'il n'y a pas de rêve prémonitoire, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, dans une lettre à Rank, qu'on puisse parler d'un rêve prophétique de quelque chose qui n'a pas eu lieu ? Il y a une espèce de lapsus dans cette lettre-là qui fait qu'il y a une confusion entre rêve prémonitoire et rêve prophétique, d'autant que Freud, lui, nous donne une théorie du rêve. Elle est extrêmement simple. Si vous prenez l'interprétation du rêve, c'est un très gros livre dont la thèse se résume à très peu de choses, une phrase. Et là voici, il nous dit « Le rêve est l'accomplissement déguisé d'un souhait réprimé, refoulé. » Les 600 pages sont l'occasion de montrer ce que c'est qu'un rêve, ce que c'est qu'un accomplissement, ce que c'est que déguisé, ce que c'est qu'un souhait, comment il est réprimé, etc. Enfin, comment tout ça fonctionne. C'est-à-dire que Freud dit « Moi, je me distingue de tous les autres, de tous ceux qui ont fait de l'onirocritique avant moi, comme Artémidore, par exemple, parce qu'eux disent que quand on rêve quelque chose, eh bien, on rêve quelque chose qui va avoir lieu. » Tout rêve dans l'Antiquité est présenté comme prémonitoire. Et Freud dit, non, les rêves ne sont pas prémonitoires. Un rêve, il n'annonce pas ce qui va avoir lieu, mais un rêve, et c'est toute la thèse de Freud, hein, un rêve, il annonce ce qui n'a pas eu lieu à cause du refoulement. C'est-à-dire que si vous êtes un peu attentif à vos rêves, eh bien vous découvrirez que ce que vous aurez rêvé, eh bien c'est la réalisation, ça aura été la réalisation de quelque chose qui, à l'état de veille, n'aura pas pu se réaliser. C'est-à-dire que si vous reprenez la formule même de Freud, et si Freud a raison, de fait, ce rêve est un rêve qui s'assimile effectivement au désir de voir disparaître les petits mâles de la maison, rêve qu'il fait en même temps qu'il en fait d'autres qui sont l'occasion de voir Freud posséder les femelles de la tribu. Donc on est toujours dans la logique édipienne du meurtre du mâle et de la séduction de la femelle. Autre petit moment important, historique et hystérique, dans l'histoire de Freud, elle renvoie à l'énigme du sphinx. En 1906, pour ses 50 ans, Freud a reçu une médaille gravée, et vous avez sur l'avers le portrait de Freud et sur le revers une gravure montrant Œdipe et le sphinx. Vous connaissez l'histoire du sphinx et d'Édipe, je la rappelle. Hein, il y a ce petit texte écrit sur la médaille qui résolut l'énigme fameuse et fut un homme de très grand pouvoir. Donc, qui est qui dans cette affaire ? Eh bien, c'est Édipe, mais c'est aussi Freud. C'est-à-dire que les disciples eux-mêmes assimilent Freud à Édipe. Ils considèrent que Édipe a résolu l'énigme et que Freud a résolu l'énigme aussi. L'énigme d'Édipe, elle est toute simple, vous la connaissez, la question du sphinx. Hein. Le sphinx pose une question en disant qu'est-ce qui est à quatre pattes le matin, à deux pattes le midi et à trois pattes le soir. Et quand on ne sait pas répondre à cette question, quand on ne sait pas résoudre l'énigme, eh bien, on se fait dévorer, l'impétrance se fait dévorer, se fait jeter du haut des remparts. Or, quatre pattes le matin, deux pattes le midi, trois pattes le soir, c'est l'homme. Édipe résout l'énigme. Et à partir de ce moment-là, évidemment, il est bien obligé, le sphinx, de laisser Édipe entrer dans Thèbes. Et c'est l'occasion pour Édipe de s'unir avec sa mère. Vous connaissez l'histoire, puisqu'on fait savoir à Édipe qu'il s'unira avec sa mère et il tuera son père. Il se fait qu'on n'entre pas dans les détails, mais il ne sait pas qui est son père, qui est sa mère, qu'il y a une espèce d'accident de voiture à Thèbes et qu'il se fâche, altercation avec un homme qu'il tue, c'est son père. Et il se retrouve dans les bras d'une femme dont il découvre par la suite qu'elle est sa mère. Bon, évidemment.